technologie, il n'y est pas réellement incité du fait de ses objectifs très contraignants. Ça veut dire que, quelque part, il doit être sûr de son coût, mais ça veut dire aussi que sur certains dossiers, il laisse tomber. C'est une réalité, et une réalité que l'on peut aisément démontrer. Mais admettons qu'il s'adresse, qu'il demande une expertise à la délégation régionale compétente. Encore faut-il que celle-ci ait les moyens de mener son expertise à bien. On a des remontées, je me souviens il y a quelques années en Rhône-Alpes, assez éclairantes, où les personnels de la délégation nous disaient « Mais vous savez, nous, notre objectif, c'est de vendre le crédit impôt recherche, donc on a un peu un front renversé, et on n'a pas les moyens d'aller passer suffisamment de temps dans l'entreprise que vous contrôlez pour démontrer si oui ou non le projet qui est mené à bien peut être éligible au crédit impôt recherche. » On a même une remontée que des stagiaires ont été envoyés 2 heures dans une entreprise pour, au fond, valider le crédit impôt recherche. Ce qui explique que le taux de refus, il est assez faible. Et comme, quand l'expertise est validée, eh bien nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes pas des scientifiques, nous n'avons pas les compétences, ce n'est même pas notre rôle, donc on ne peut pas remettre en cause le crédit impôt recherche. Et en clair, on fait plus égal, on multiplie par 30%, on regarde bien si le crédit impôt recherche est le bon. Donc il y a des difficultés pratiques au quotidien qui relèvent d'une, à la fois de l'orientation qui est donnée à l'administration fiscale, mais au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et question évidemment de moyens. Donc ça, c'est particulièrement déterminant et c'est particulièrement visible s'agissant du crédit impôt recherche. Alors on nous a dit, on va faire un protocole. En mars 2014, il y a un protocole qui a été signé entre la Direction générale des finances publiques et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire le bilan, ça fait partie des propositions qu'on fait de ce protocole-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la lourdeur de la mise en œuvre de cette expertise demeure et que dans le protocole, la priorité est donnée au dialogue avec l'entreprise. Je pense que vous savez ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce qu'on a observé? Malgré tout, il y a eu quelques contrôles, il y a eu des redressements, parce que je disais, on a aux environs 300 millions d'euros, bon an, mal an. Qu'est-ce qu'on a observé comme type de redressement? On a pu voir, par exemple, je disais, peut prouver parfois que des personnels sont abusivement rentrés dans les dépenses de personnel éligibles au crédit impôt recherche. On a pu voir que des dépenses ne provenaient pas d'une recherche-développement particulièrement, enfin proprement dit, mais que c'était simplement des dépenses normales de fonctionnement de tel ou tel produit. On a par exemple relevé que certaines dépenses des banques pour la recherche, enfin pas pour la recherche, mais pour le développement du trading à haute fréquence, dont on connaît par ailleurs les résultats en termes de spéculation, rentraient parfois abusivement dans le crédit impôt recherche. On a vu, je le disais tout à l'heure, des séminaires d'entreprise qui n'avaient rien à voir, et parfois on a pu prouver que ça n'avait rien à voir avec tel projet, et on a pu opérer un certain redressement. Mais le problème au fond qu'on a, c'est le problème de la détection, des projets, de l'expertise. Et puis, comme l'information en amont est très peu disponible, ça a été dit, le rescrit lui-même est peu utilisé. Alors, il est peu utilisé pour 2 raisons. Oui, il y a des entreprises, effectivement, qui ont peur que ça déclenche automatiquement un contrôle. Puis, vous en avez qui savent parfaitement qu'ils n'ont pas intérêt à passer par leur rescrit et qui préfèrent mener leur petite affaire en sachant très bien que les risques de contrôle, d'une part, et les risques d'un contrôle défavorable sont assez peu élevés au fond. Pourquoi ? Parce que le conseil s'est développé. L'ingénierie financière et fiscale s'est développée sur tous les fronts, particulièrement au stade du crédit impôt recherche. Et c'est vrai, il y a des cabinets qui proposent des packaging pour le crédit impôt recherche qui se rémunèrent avec des taux 10, 20, parfois même 30%, on l'a vu, sur le montant du remboursement. Et comme tout cela, les cabinets travaillent de manière également empirique, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment passer entre les mailles du filet, comment réduire le risque de contrôle. Mais ils proposent aussi une assistance en termes de contrôle. Et pour les plus sérieux d'entre eux, j'allais dire, pour les autres, ils prennent juste leur commission, mais ils proposent même une assistance au nom de la sécurité juridique des entreprises, une assistance en termes de contrôle, avec évidemment un pourcentage sur la partie contentieuse qui serait abandonnée par l'administration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à une telle situation? On peut s'interroger sur l'existence même du crédit impôt recherche, en lien avec ce qui a été dit sur le financement de l'action publique. Mais si on admet, même si on fait un effort, qu'il y a un crédit impôt recherche qui doit être maintenu, alors on peut se dire qu'il y a un certain nombre de propositions qu'on peut livrer au débat public. À partir du moment où on avance, par exemple, assez brutalement, qu'il y a une forme de triple peine. Pourquoi triple peine? On a des entreprises qui peuvent bénéficier du CICE, parce que le CICE, c'est un dispositif d'allègement général du coût du travail, puis du crédit impôt recherche, et puis éventuellement qui déduirait des redevances de leur de leur résultat imposable. On va travailler, nous, sur un ou deux exemples qui montrera le coût réel pour la société qui est supporté de fait par ceux qui payent des impôts par ailleurs, hein, au passage. On proposera, nous, de revoir l'assiette du crédit impôt recherche. La question du plafond au niveau du groupe, elle est posée. Je crois qu'il y a eu déjà des débats en fin d'année 2014 sur la base d'un travail qui montrerait la réalité du crédit impôt recherche et de l'optimisation du crédit impôt recherche. On peut introduire un plafond au niveau des grands groupes. On peut s'interroger aussi sur les dépenses éligibles. On peut s'interroger sur les dépenses éligibles, évidemment sur leur contrôle. Pourquoi pas d'ailleurs essayer de redensifier la question de l'autorisation préalable, soit du rescrit ou l'autorisation préalable. Ça peut se passer ailleurs. On peut obliger de loger le brevet en France pour éviter les phénomènes d'optimisation pendant un certain nombre d'années. On peut revoir le contrôle dans la dimension préventive. On demandera, nous, un bilan du protocole des GFIP, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On demandera également une meilleure programmation au niveau de la DGFIP, puisqu'on a toujours un temps de retard sur le contrôle, et éventuellement de poursuivre les cabinets fautifs qui auraient incité à la fraude. Donc il y a des enjeux liés. Au fond, nous, et puis on a une organisation syndicale, on s'inscrira, on enverra évidemment notre contribution. Il faut également rendre public, dont je le disais tout à l'heure, il y a une sensibilité de l'opinion à ces différents enjeux. Et c'est peut-être le moment d'agir et de montrer tout simplement une réalité, parce que celle-ci est imparable. Elle doit conduire au minimum à une réforme, une réduction du coût du crédit impôt recherche, au maximum peut-être à sa remise en cause. Merci.
On va prendre quelques questions en essayant de ne pas déborder trop sur le timing qui est bien dense.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites loger le brevet en France. Parce que quand on prend un brevet, sous le français, après on dépose à l'international, on peut éventuellement avoir un brevet européen et on va payer les taxes dans le pays qu'on a choisi. Ça veut dire que j'ai logé mon brevet en Pologne, par exemple. J'ai payé en France, je paye les taxes pour la Pologne. C'est normal que je protège mon brevet dans tous les pays européens si je ne peux pas avoir un brevet en France, etc. Donc, vous pouvez préciser ce que vous voulez dire en loger le brevet ailleurs
Une deuxième intervention, puis il y aura peut-être des réponses plus globales.
Bonjour, je suis Baptiste Chernel, je fais partie d'un des vilains cabinets d'optimisation des coûts et d'accompagnement.
Bienvenue au club.
Au CIR. Je suis aussi syndiqué CFDT et je suis titulaire d'un doctorat en informatique et réseau. Donc, je suis quand même sensible à toutes ces problématiques. Voilà, je voulais dire que chez nous aussi et chez beaucoup des entreprises qui nous accompagnent, la problématique du contrôle est quelque chose d'important. Il y a une grande incertitude vis-à-vis des contrôles fiscaux dans le CIR, même quand on essaye de bien faire les choses, de bien respecter les textes, de suivre le critère et d'accompagner nos clients. C'est difficile actuellement d'avoir une visibilité claire sur l'ensemble des dépenses qui sont éligibles au dispositif. Et c'est une grande tragédie pour les entreprises, en particulier les PME. Il faut voir qu'un contrôle fiscal, ça n'a pas le même impact sur un grand groupe qui va pouvoir déléguer 2 ou 3 personnes à temps plein pour s'occuper de son contrôle fiscal, et sur une PME de 20 salariés qui va tout d'un coup vouloir faire un branle-bas de combat général parce que toute son activité est, je dirais, perturbée par l'arrivée du contrôle fiscal qui, par nature, est imprévu, ce qui est normal, mais tout de même. Et que, voilà, je ne veux pas qu'on nous présente comme le grand méchant loup de cette histoire. Il y a eu beaucoup d'abus de cabinets comme le nôtre, c'est vrai, et je pense qu'il faut lutter contre ces abus. Après, on remplit aussi une activité qui est demandée par les entreprises. La documentation exigée dans le cadre du CIR est lourde à produire, difficile à produire pour beaucoup de nos clients. On fournit un service dans ce cadre-là. Et dans beaucoup des cas, notre rémunération, alors qu'on est énoncé comme ça en pur pourcentage, ça peut paraître brutal, mais bon, 20% de 10 000 euros, ça fait jamais que 2 000 euros, et qu'on passe 4 jours ou 5 jours de travail sur le cas, bah, ça fait pas un taux horaire si fantastique que ça. Voilà, je voulais apporter un peu de relativisme à toutes ces assertions. Et nous sommes aussi ouverts au discours et on veut chercher à avancer vers une utilisation plus responsable du CIR, nous aussi.
Simone. Je prends encore deux ou trois interventions et puis après, on va passer au risque de dérive avec François Mitterrand.
On a beaucoup parlé pendant un moment des services, justement, qui bénéficiaient du crédit impôt recherche. Mais on n'arrive pas vraiment, quand on regarde même la liste des entreprises, on n'arrive pas vraiment à comprendre vraiment quels sont ces services, en dehors des cabinets conseils, bon, les assurances, les banques ou autres types de services.
Oui. Les. Une question là-haut, puis on va passer aux réponses. Serge.
Les banques, on va les entendre.
En y allant, je pose juste une question. Est-ce qu'il y a des moyens de conditionner justement l'obtention du CIR par justement l'embauche de docteurs, etc. Est-ce que ça existe quelque part dans les différents dispositifs ou pas? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Est-ce que c'est une piste aussi de réflexion? J'ai oublié de dire, je suis au SNESUP de l'Université du Maine au Mans.
Oui, c'était pas vraiment une question, mais un témoignage sur la question de contrôle. Donc peut-être on peut le voir après si tu veux, mais... si j'ai la parole, je suis Serge Vidal, secrétaire général du syndicat CGT DFRD, et je suis aussi président de la commission économique du CCE-DDF. Et je crois, y compris par rapport à des interventions, faisant attention à ne pas se faire avoir, y compris par nos discours, y compris sur le contrôle, les droits nouveaux et le contrôle par les salariés. Juste les témoignages, pour être précis, le passage en CCE serait la panacée. On a dit ce matin... Je ne parlerai pas trop du CIR parce que ça sera vu cet après-midi, je rassure Daniel. Ce matin, on a fait le parallèle avec le CICE. Hier, j'étais en comité central d'entreprise d'EDF qui avait comme objet de vérifier le CICE de 2013. Vous verrez, l'analogie est importante parce qu'on vérifie les choses deux ans après, ce qui est comme déjà une partie de la sprouf. Et la direction a déclaré, je cite... Le CICE n'est pas affecté, c'est une ressource fiscale parmi d'autres. Grand groupe EDF quand même. C'est exactement pareil pour le CIR. Le comité central d'entreprise a voté hier contre à l'unanimité. L'ensemble des organisations syndicales ont déclaré, au vu des éléments, que ça contribuait au bénéfice de l'entreprise, ce qui est illégal. Juste la CFDT n'a pas pris part au vote, elle était un peu gênée aux entournures. Voilà, c'est juste, donc voilà, on peut dire 6 milliards c'est pas beaucoup, mais si ça sert à rien et si c'est illégal, ça me gêne quand même. Donc je parle pas du CIR, on y reviendra cet après-midi d'EDF, mais je confirme que des salariés sont comptés deux fois dans l'affaire et qu'il n'est pas affecté.
Merci. On peut répondre et peut-être on enchaîne avec...
Deux, trois éléments sur la question. Moi, je l'aborde, la localisation du brevet sous l'angle de la redevance qui est versée. Quand on a une entreprise se pose la question d'une mesure législative, par exemple, lorsqu'une entreprise a bénéficié du crédit impôt recherche, est-ce qu'il est normal que la recherche qui a été financée par l'action publique le soit une deuxième fois sous l'angle du versement de redevances déductibles de l'impôt sur les sociétés? Donc, loger, ce n'est pas un terme juridique, c'est l'idée, c'est peut-être de restreindre les possibilités de verser des redevances à une filiale, puisqu'on a objectivement une véritable double peine au niveau des finances publiques françaises. À partir du moment où il y a un crédit impôt recherche, il n'est pas prévu une deuxième aide sur le même type de dépenses, ou en tout cas sur l'exploitation. Donc, je n'ai pas la solution juridique à ça, parce qu'effectivement, il faut protéger un brevet, mais par contre, c'est sous l'angle de la redevance d'une dépense qui a été déjà préfinancée par le crédit impôt recherche. Sur problème de contrôle, je trouve ça il faut évidemment confronter nos opinions et nos vécus. L'objet n'est pas de dire tous les cabinets sont etc. On a relevé des pratiques qui, objectivement, sont abusives. Donc, se pose la question de la limitation des pratiques abusives. Et à l'évidence, les entreprises ont besoin d'un conseil public, d'un conseil privé. Et de ce point de vue-là, comment dire, il y a une petite évolution. Vu l'ampleur de la fraude, pour le coup de la fraude, c'est 60 à 80 milliards d'euros. C'est une estimation qu'on avait portée, qui a été reprise, dont on craint même qu'elle soit sous-dimensionnée, on peut se le dire. Le gouvernement a décidé, alors c'est bien, c'est pas bien, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, de faire une action un peu préventive. Et notamment, il y a un site internet qui a été créé qui révèle des pratiques qui ne sont pas bonnes et puis qui essaie de donner davantage d'informations aux entreprises. Bon. Alors, sur plusieurs choses, il y a un guide un peu recherche, il y a tout un tas de choses sur d'autres dispositifs fiscaux. Mais j'allais dire, c'est aussi son rôle, quoi qu'on pense du crédit impôt recherche ou de la loi fiscale, le service public c'est aussi renseigner les acteurs économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises. Donc pour cela, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui ne va pas, c'est les pratiques. On peut s'interroger sur la rémunération de certains cabinets, je vais le dire comme ça, en termes de pourcentage. Là, peut-être, parce qu'il y a une véritable incitation à l'optimisation, voire à plus. On le sait très bien que parfois on retrouve des cabinets et sur des mécanismes d'optimisation, et puis l'optimisation glisse de proche en proche, on se retrouve à frauder. Un mot sur les PME pour dire qu'il y a des incitations particulières sur les PME. Il y a notamment, ça a été dit tout à l'heure, le crédit impôt innovation. Il y a des mécanismes de restitution du crédit impôt recherche particulier, donc il n'est pas anormal qu'il y ait un effort sur les PME. Et effectivement, la crainte d'être contrôlé, la sécurité juridique, c'est d'abord sur les PME, tout simplement parce que ce sont aussi les moins bien conseillés. Et vous avez bien compris que les dérives de certains mécanismes fiscaux, notamment du crédit impôt recherche, sont moins sur les PME que sur les grands groupes. Et ça rejoint d'ailleurs les questions d'inégalité entre les PME et les grands groupes. Et un dernier mot sur le CICE. Se pose sur le CICE la même question, la même problématique en termes de contrôle que sur le crédit impôt recherche, parce que la volonté politique est de promouvoir ces deux outils fiscaux plus que de les contrôler. Et nous portons par ailleurs la nécessité d'un contrôle du CICE et d'un bilan. Et s'il n'est pas fait, on y contribuera pour montrer ce que j'appelle la triple peine, CICE, CIR, déduction des redevances. J'espère au moins qu'on contribuera au rapport en ce sens-là, et il faudra passer au bout d'un moment par des chiffres un peu chocs